Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Femmes d'aujourd'hui, c'est bien sûr une communauté. Quand on parle de communauté, eh bien, on prend régulièrement des nouvelles les unes des autres. Et aujourd'hui, eh bien, justement, c'est l'heure de prendre des nouvelles de l'une de nos femmes. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Sabrine Gdira, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Sabrine?
Ça va très très bien.
Comment va la petite famille?
Tout va très bien, ça grandit.
Dis-moi, moi je t'ai laissé avec un petit garçon.
Oui, et entre-temps j'ai une petite fille.
Oh, tabarakallah. Elle a quel âge maintenant?
Elle va avoir 1 an la semaine prochaine.
Oh, magnifique, magnifique.
Ouais.
Donc en fait, on se connaît, on s'est connus à travers On se dit tout, l'émission télé que je faisais sur Médien TV. Tu étais l'une de mes intervenantes récurrentes sur la thématique de la parentalité, de l'allaitement, de l'accompagnement aux parents. Ensuite, tu as fait l'expérience de la parentalité toi-même, de la maternité. Pardon, les petits virus de l'hiver. Tu as fait toi-même l'expérience de la parentalité. On avait discuté de cela justement, la différence entre guillemets la théorie et la vraie pratique. Et puis ce que tu avais vécu aussi il y a quelques années, c'était une erreur médicale qui a failli te coûter la vie et qui a failli te séparer définitivement de ton enfant en fait. Et tu avais raconté ce voyage que tu avais fait pour aller te faire opérer ailleurs, sans savoir si un jour tu allais revenir voir ton bébé ou pas. Donc c'était une interview très émotionnelle, très émotive avec toi. Mais j'ai l'impression, Sabrine, que la vie ne t'a pas forcément ménagée après ça.
Exactement. Le chemin de la convalescence, il est long. Il est semé d'embrouilles parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas forcément apparentes dès le début. Au début, on sait qu'on va se faire opérer une première fois, une deuxième fois, puis une troisième fois. On flirte un peu avec la mort, on la voit de très très près. On a très peur et en même temps, on a une rage et une force, peut-être même un instinct, je ne sais pas, qui se crée en nous. En tout cas, moi, c'est ce qui me motivait. Pendant tous ces mois de combat, parce que c'est un vrai combat que j'ai mené, contre la maladie, mais avec moi-même, en fait. Parce que tous les jours, je me réveillais, je me disais, j'ai pas envie de mourir. J'ai envie de rester, j'ai pas envie de mourir. Et paradoxalement, il y a des fois où je souffrais tellement, où je me disais, bon ben, j'ai échoué, voilà, tout n'est pas forcément victoire, donc laissez-moi mourir, j'en peux plus. Donc vraiment, c'était un paradoxe très fort et très bizarre en même temps pour les gens qui vivent pas ça, de se dire en même temps, on se bat tellement pour vivre, mais il y a des moments où on a juste tellement envie de mourir parce qu'en fait, ça devient trop difficile, trop de traitements, trop de douleurs, trop de... Voilà. Et donc, on s'était laissé là au moment où justement, j'étais en train de combattre les dernières petites choses qui me rattachaient à cette grosse épreuve, c'était même la plus grosse épreuve, évidemment, de ma vie.
Rappelle ça un petit peu à notre communauté, tu avais souffert d'une hernie, c'est ça?
En fait, au début, voilà, c'était quelque chose d'assez banal, une hernie pseudo-tumorale de par la localisation et la taille. Je me suis fait opérer en urgence, une première, puis une deuxième fois, suite à une erreur médicale pendant la première opération, donc à 48 heures d'intervalle. Et puis je suis rentrée à la maison et les douleurs n'étaient pas normales, les positions dans lesquelles j'étais n'étaient pas normales. Et j'ai ma belle-maman qui m'a sauvé la vie parce qu'elle est elle-même médecin et elle m'a dit « Sabrine, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, allons faire une IRM pour voir ce qui se passe ». Et en fait, j'avais une infection qui était généralisée, un processus septique. En m'expliquant que le pronostic vital était clairement engagé et qu'il fallait être
rapide
à l'étranger le lendemain.
Donc tu es partie, tu ne savais pas si tu allais revenir, tu as fait ton intervention, ça s'est bien passé, mais ça ne s'est pas arrêté là en fait.
Voilà, il y a eu 1 an de combat post-opératoire, déjà l'antibiothérapie qui a été très forte, On a posé des prothèses dans le dos, des vis. Il y avait toujours le risque que l'affection revienne. Il y avait des douleurs atroces. Beaucoup de médicaments, du coup, pour aider aux douleurs. Puis après, il faut enlever les médicaments qui ont aidé à la douleur.
Oui.
Il faut se réapproprier son corps parce que c'est un handicap invisible, mais c'est un handicap parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire, qu'on peut plus faire de la même façon. Et en fait, ce qui se passe à la fin de ce processus, même s'il n'y a pas vraiment de fin, mais en tout cas, quand on se sent mieux, c'est qu'il faut réapprendre à être cette nouvelle personne. Parce que,
quoi tu as changé, justement ? Qu'est-ce qui a changé en toi ?
Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est le statut de malade. Quand on l'a pendant, comme moi, 2 ans, mais 2 ans de manière intense, ça veut dire être loin de son enfant, être dans des hôpitaux, être dans des traitements, subir des chirurgies. Donc, un gros statut de malade, au final, ça devient son identité. Donc, au final, c'était devenu moi. J'étais devenue Sabrine qui était malade. Et le jour, c'est vraiment étrange à dire et à penser, mais le jour où tu ne l'es plus, tu n'es plus malade, en fait, tu ne sais plus qui tu es parce que c'est comme si c'était devenu ton identité. En tout cas, moi, pour ma part, c'était devenu qui j'étais parce que je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus faire beaucoup de choses. J'étais tout le temps en déplacement, j'étais tout le temps en traitement, j'étais tout le temps douloureuse, j'avais mal. Voilà, donc c'était devenu moi. Et en fait, petit à petit, ce moi change parce que ben, tu n'es plus malade et tu n'as plus ce statut et tu n'es plus en train de combattre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, ça change qui tu es intrinsèquement parce que le concept de la mort, on sait tous qu'on va mourir un jour, en naissant d'ailleurs. On a tous plus ou moins perdu des gens proches. Donc, on a tous déjà côtoyé la mort de près ou de loin. Mais quand on la vit soi-même, c'est-à-dire qu'on est, au vrai sens du terme, entre la vie et la mort, et qu'on flirte avec elle, qu'on sait ce que ça fait, qu'on voit nos proches s'imaginer la vie sans nous. Moi, en l'occurrence, j'ai vu mes parents s'imaginer sans moi. J'ai vu mon mari se mettre en tête qu'il allait probablement être veuf, qu'il allait devoir élever notre enfant seul, me demander mes dernières volontés, me demander ce que je voulais pour notre enfant, pour lui.
Tu as eu cet échange avec lui, c'est vrai ?
Oui, bien sûr. Alors,
ou à sa demande ?
Alors, à la demande de personne, la veille de la chirurgie à Paris, en fait, moi, je ne réalisais pas du tout à quel point j'étais en train de vivre quelque chose de très, très grave. Pour moi, c'était grave, mais pas à ce point. Lui avait été quand même alerté par sa maman, qui est venue la voir la veille de son départ à Paris, en lui disant « Je viens te voir en tant que médecin et pas en tant que maman. » Voilà, ce que Sabrine a est très grave et il aura peut-être une issue fatale. Donc, il faut se préparer. Donc, voilà, elle, avec beaucoup de doigté, beaucoup de douceur, elle l'a préparé à cette grosse éventualité. Et donc, la veille de la chirurgie, on était dans la chambre d'hôpital, on attendait le chirurgien. Et des psychologues sont venus nous voir pour nous expliquer, en fait, la situation. Et c'est là qu'on a réalisé tous les deux que c'était vraiment très grave en fait, ce qui se passait. Donc, cette discussion, on a commencé à l'avoir avec les psychologues qui m'ont demandé notamment si je voulais donner mes organes, si je voulais un marcheur pneumothérapeutique.
Ouais, ouais.
Si j'étais consciente de ce qui se passait.
Mais moi, on répond comment à ce moment-là, Sabrine ? Parce que j'imagine, je ne sais pas si tu avais déjà pris le temps de réfléchir toi-même à ça. Et on te
non,
pose
jamais.
Des questions et tu es supposée répondre.
Oui, alors.
Et j'imagine qu'au départ, il y a comme un instinct de protection, ouais. En fait.
Oui, au début, il y a un déni, parce qu'on se dit non, mais moi, je ne peux pas mourir. Enfin, mon enfant a 1 an et demi. Mais en fait, oui. Et c'est déjà arrivé, et ça arrivera, malheureusement, il y a. Ça arrive tous les jours. Donc,
ouais.
En fait, on a toujours l'impression que ça peut arriver qu'aux autres, pas à nous. Donc, quand on m'a expliqué que non et que c'était probable, ils n'avaient pas l'air d'être très optimistes vu la situation dans laquelle j'étais. Et en fait, ils m'ont amenée avec une magie, avec une douceur, avec une bienveillance à réfléchir de manière profonde mais rapide à toutes ces problématiques, parce qu'on n'avait pas de temps, en fait. Il fallait vite répondre à ces questions, mais il fallait y répondre bien. Il fallait que ça soit de vraies réponses. Donc, de par leur professionnalisme, en tout cas, ils m'ont amené à me poser les bonnes questions et vite et bien. Et puis, quand ils sont sortis de la chambre, au bout de quelques temps, on a poursuivi
la discussion.
On a poursuivi la discussion. Par exemple, ils me disaient, est-ce que je vais me remarier un jour? Et ils me disaient, moi, je pourrais jamais. Ils me disaient, et toi, qu'est-ce que... Enfin, donc, c'est des questions très, très... Que jamais tu t'imagines, des sujets que jamais tu t'imagines aborder
avec ton mari.
Ouais. Voilà, quand tu te dis oui pour la vie, c'est pas des choses que tu imagines un jour discuter avec lui.
Ouais.
Donc voilà, et ça a renforcé notre lien d'une manière.
Alors justement, j'allais te poser cette question parce que il y a eu l'intervention, alhamdoulilah, tu en es sortie vivante. La preuve, on en parle aujourd'hui. Ça fait combien de temps? 2 ans?
2 ans.
2 ans, exactement. Et puis, il y a eu toute cette période de convalescence, toute cette période où Sabrine, c'était une malade, comme tu l'as très bien expliqué. Qu'est-ce que ça a fait à votre couple, en fait, de vivre... Et j'imagine qu'à ce moment-là, tous tes rêves, en fait, la pouponnière de Sabrine, ce que tu avais lancé, l'accompagnement des parents, toutes ces choses-là, c'était entre parenthèses.
Tout a été mis entre parenthèses et tout le reste, j'ai envie de dire que j'avais l'énergie pour faire le minimum et le principal, c'est-à-dire mon enfant, mon foyer, ma petite famille, que je n'avais pas envie de voir voler en éclats. Mmh. Et la frontière est très fine, c'est-à-dire avec tout l'amour du monde. Moi, j'ai un époux qui est exceptionnel et qui l'a montré pendant cette période. J'en ai les larmes aux yeux, mais... C'est vrai que jamais j'aurais pu imaginer être accompagnée comme ça, physiquement, moralement, mentalement. Mais c'est dur. Et en fait, l'accompagnateur, il a un rôle dégueulasse. Pardon pour le terme, mais j'ai envie de le dire comme ça. Parce qu'en fait, toute l'attention est concentrée sur le ou la malade. Et lui est aux premières loges, du coup, il vit avec moi les nuits blanches, il se réveille avec moi quand j'ai mal, il me masse quand j'ai mal, il me retourne quand j'arrive pas à bouger. Il a peur avec moi, il a peur de perdre sa femme, il a peur d'élever son enfant seul, il y a une peur, il y a une présence, et il faut qu'il continue de travailler, parce que il faut nourrir, il faut payer toutes ces chirurgies. Donc, il y a une réalité financière aussi. Donc, il était vraiment à tous les fronts. Il s'occupait de notre fils, il s'occupait de moi, il s'occupait de travailler. Et en fait, les gens autour étaient là pour moi et l'appelaient aussi. Mais comment va Sabrine? De quoi Sabrine a besoin? Et en fait, l'accompagnateur, il a un rôle délicat, parce que personne, en tout cas pas beaucoup de monde, se retourner vers lui en lui disant « Et toi? Est-ce que toi, ça va?
Ouais.
Toi, tu as besoin de quelque chose? Est-ce que toi, tu le vis bien? Est-ce que toi, tu as peur? » Est-ce que... Voilà, personne ne va l'appeler pour lui. En tout cas, pas beaucoup de monde.
C'est beau parce que toi, tu en as pris conscience pour lui, en fait.
Oui.
Et tu en avais conscience à ce moment-là? Pardon, Sabrine.
Pas du tout.
Non?
Pas du tout. Et c'est à la fin où il m'a dit « Tu sais, au final... » parce que je lui ai évidemment remercié 150 millions de fois tout ce qu'il avait fait pour moi. C'est grâce à lui que je suis encore vivante, parce qu'il m'a donné cette force. Il m'a dit, tu sais, c'est toi qui m'as aidée dans cette épreuve. C'est toi qui m'as aidée à être là pour toi. Et en fait, sans se le dire et sans que ça soit programmé, on s'est aidé mutuellement et on s'est donné l'un l'autre ce dont on avait besoin. Mais voilà, c'est très difficile pour un couple. Ça, c'est,
ouais. Alors c'est Sabrine, tabarkallah, vous incarnez en fait cette beauté du couple jeune, alors que j'ai l'impression que les sociétés ont perdu, ou plutôt notre société, allez, je ne vais pas généraliser, mais notre société a perdu confiance en les jeunes couples d'aujourd'hui.
On perd du confiance, j'ai envie de dire à juste titre, parce que les statistiques parlent d'elles-mêmes, mais moi je suis thérapeute de couple aussi depuis presque 15 ans maintenant, et c'est ce que je vois. Et on a cette dualité dans nos sociétés, et moi j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment les sociétés au pluriel, et évidemment on fait une généralité, mais il y a un million de contre-exemples, heureusement, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que les gens, aujourd'hui on est dans une société de consommation. Et malheureusement, on est dans une société de consommation des relations aussi. Et les psychologues le voient, les gens qui font des études le voient. des études, je veux dire, sociologiques. Et c'est vrai qu'on est dans cette dualité de vouloir se détacher de l'ancien modèle, comme on a tendance à l'appeler. Mais moi, en tout cas, dans ma pratique, j'aimais à rappeler à ma patientèle qu'un recentrage sur ce qui se faisait avant, alors évidemment pas tout, il y a des choses qui, voilà, qu'il fallait qu'elles évoluent, elles vont évoluer, mais on aurait beaucoup de choses à gagner de se réancrer sur ce qui se faisait avant, parce qu'il y avait de très belles choses aussi avant. Et on a tellement envie d'évoluer, de se dire moderne, c'est la nouvelle société, le nouveau couple, que voilà, on a perdu certaines choses de ce qui se faisait avant, qui sont fort dommages. Et c'est ce qui a fait aussi, pour être complètement honnête et transparente avec toi, cette transition professionnelle que je suis en train de vivre maintenant. C'est exactement ça la genèse de ma volonté de changer de cap. C'est que quand tu vis une épreuve et que tu es aussi proche de la mort, en fait, quand tu reviens parmi les vivants, donc quand tu reviens de cette maladie, dans la vie normale, j'ai envie de dire, tu te poses des questions sur tout, sur toi, sur ton travail, sur tes amis, sur ta famille, ta maison, et tout en fait, tout est remis en perspective. Et j'avais quelque chose dans mon cœur qui me disait, il faut que je reprenne le travail, c'est ce que j'aime faire ça, je le fais depuis toujours et je pense que je le fais plutôt bien parce que je le fais avec passion, avec bienveillance, avec empathie, avec écoute. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur qui m'empêchait d'y retourner. Alors que j'étais bien physiquement à ce moment-là et je pouvais y retourner et je n'y retournais pas. Et en fait, quand je me suis fait accompagner, évidemment, pour faire le deuil et pour accepter ce qui m'arrivait dans le cadre de ma santé, et en fait, je disais à cette personne, je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque. Et en fait, dans mes toutes petites années de pratique, j'ai vu une évolution de la parentalité, du couple, de plein de petites choses comme ça, qui en fait me font dire aujourd'hui que c'est plus réellement ma place. Parce que ma place aujourd'hui dans le domaine de la parentalité, de l'éducation, elle serait de mettre en garde et de dire attention, il y a des choses qui ne vont pas de comment on fait les choses aujourd'hui. Pour plein de raisons, hein, qui sont pas, c'est pas la faute des parents, parce que les mamans travaillent 8 heures, voire plus, les papas idem, on est surstimulant, on surconsomme, on survoyage, on fait trop d'activités, que ce soit pour nous, pour les enfants, on a envie d'être partout. Les anniversaires, c'est devenu des événements quasi-mondes. Enfin,
oui,
on est dans un espèce de truc énorme. Et en fait, mon rôle aujourd'hui, ma place dans le domaine dans lequel je travaille depuis que je travaille, de la parentalité, de l'éducation, c'est de mettre en garde. Et en fait, ça serait un combat, en fait. Attention ! Mais en fait, j'ai juste plus la force de combattre. J'ai combattu pour rester en vie. Et là, maintenant, tout de suite, je ne peux plus être dans un domaine d'activité où... Parce que je ne peux pas juste surfer sur la vague. En fait, voir ce que je vois en consultation tous les jours, et même dans ma vie personnelle ou à l'école, et me taire, en fait, et juste agir comme...
Alors, juste une petite part. Quand tu dis voir ce que je vois, c'est quoi? C'est cette frénésie? C'est ces choses qui sont...
Cette
démesure, en fait, de tout?
Cette démesure. Et les enfants sont surstimulés, les enfants sont fatigués. Donc, les enfants sont suragités, parce que quand un enfant est fatigué, il bouge partout, il en a marre. Les écrans, c'est un sujet qui me prend aux tripes. Je ne peux plus, moi, aller au restaurant et voir des enfants de 5 ans avec casque et iPad. Le message est clair, restez dans votre monde, ne nous parlez pas, ne nous écoutez pas. Et en fait, mais je comprends quelque part ces parents qui ont besoin de cette heure du déjeuner, du dimanche, de tranquillité, parce qu'ils jonglent entre un travail, une famille, une belle famille, le chaos à la maison, la douche, les devoirs. Donc, il n'y a vraiment aucun jugement dans ce que je vois. Et dans le constat, il n'y a vraiment aucun jugement, mais il y a juste une réalité qui est qu'aujourd'hui, je ne peux plus travailler d'enfant. Je ne peux pas être dans un travail qui est un combat aussi. J'ai besoin d'être dans un travail où, avec un peu de légèreté, avec, voilà, autre chose.
Autre chose, c'est ce que tu as lancé dernièrement, justement.
Voilà. Autre chose, c'est ce que j'ai lancé dernièrement. Quelque chose que j'ai toujours plus ou moins fait dans ma vie, c'est créer des robes, dessiner, acheter des tissus. Moi, j'ai toujours fait ça avec ma grand-mère, qui était couturière déjà. Bon, elle était italienne, donc elle faisait des pièces de style européen. Elle faisait ouais. même des maillots, des robes de mariage. Et j'ai passé mon enfance et mon adolescence, et ma vie de jeune femme aussi, à aller avec elle acheter des tissus, à imaginer des modèles, à les concevoir, à l'aider, à lui habiller les tissus, l'aider à coudre, à rester la regarder près de sa machine à coudre pendant des heures. Et ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé et quelque chose que j'ai fait. Donc j'ai toujours créé pour moi-même des tenues marocaines, très, très sobres, très simples. Un mélange entre le traditionnel et le moderne qui me correspond et qui me représente mieux. Et c'est vrai que toujours on me disait ah, c'est joli ce que tu portes ou tu achètes ça, et je dis ah non mais c'est moi. Et en fait comme ça j'ai plein de gens qui me disaient ah bah fais-moi la même, donc je faisais. Et en fait j'aime ça autant que j'aime mon ancien métier, donc ouais. la thérapie et la parentalité. Et en fait je me suis dit ben c'est le renouveau, c'est l'heure du renouveau, c'est l'heure de l'arrêt de combattre. Donc, lançons-nous, avec ma sœur d'ailleurs, qui est ma binôme dans la vie et donc maintenant dans la vie du travail. Et on va voir ce que ça va donner. On espère que ça plaira. Et puis voilà, c'est une nouvelle aventure.
Donc, tu sais, je ne comprenais pas en fait quand je voyais tes nouvelles images sur Instagram. Je me disais, je ne comprenais pas parce que, en fait, je savais combien tu aimais ton métier parce qu'on en a voilà, beaucoup parlé, tu étais toujours présente pour les parents, notamment sur le plateau d'On se dit tout. Donc, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Est-ce que c'est un on the side ou bien c'est une véritable reconversion professionnelle en fait?
Oui, c'est une véritable reconversion professionnelle et je ne ferme pas... C'est-à-dire que je continue quelques petites activités pour la pouponnière, notamment des gens que je suis depuis longtemps ou des choses sur lesquelles, voilà, qui me permettent de vivre cette passion qui était mon travail, mais qui est une passion avec pas trop d'irritant, j'ai envie de le dire comme ça. Mais donc je continue, je pense que je continuerai encore pour plein d'années, j'espère, Inch'Allah. Mais le gros de mes journées, en tout cas aujourd'hui, c'est Ardia. Qui est le mot mater en arabe, qui est la toute petite marque qu'on est en train d'essayer de créer.
Ben Sabrine Gdiela, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci pour ce bel échange avec toi. Merci pour ta sincérité. Merci pour ta générosité, en fait. Et je te souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses, de tourner cette page et de démarrer cette nouvelle page, tant professionnelle que personnelle. Voilà, je t'embrasse fort, ma Sabrine, avec beaucoup d'affection et de tendresse de la part de toute notre communauté de femmes d'aujourd'hui.
À très bientôt.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médias et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médias Podcast et les plateformes de podcast habituelles.